Bonsoir ou bonjour, c'est Oxpo Puccino et vous êtes sur les ondes de choc. C'est pour ça que ça bouge comme ça.
Bonjour, bonjour. Est-ce que ça marche?
Ben oui.
Oui, OK. Moi, je m'entends pas du tout. Eh bien, bienvenue. Donc, bienvenue à cet épisode 168 de Pop en stock. Mon nom est Mégane Bédard. Et aujourd'hui, donc, épisode 168 de Pop en stock, on fait une activité quand même assez curieuse parce que, en fait, il y a à peu près 4 ans et demi, donc c'était à l'automne 2013, l'équipe de Pop en stock commençait le podcast et pour premier épisode, dans le fond, tout ce qui se passait, c'était une présentation du projet, donc avec les instigateurs du projet au principal, donc il y avait Samuel Archibald et Antonio Dominguez-Leiva qui ont parti d'abord le blog Pop en stock et éventuellement qui sont... qui ont essayé de fil en aiguille d'élargir ça, de rendre Pop en stock un peu plus transmédiatique et ils ont créé le podcast. Le premier épisode était vraiment pour présenter les chroniqueurs, les chroniqueuses, pour justement aussi présenter le projet et on s'est dit que comme la pop change, comme Pop en stock aussi change et comme les chroniqueurs, les chroniqueuses changent, ont changé beaucoup depuis 4 ans et demi. On allait refaire un peu le processus de présentation du projet et de présentation aussi des nouvelles, de la nouvelle équipe qui forme Pop en stock aujourd'hui parce que comme la pop, Pop en stock a subi beaucoup de mutations, de redéfinitions et c'est une culture qui contient aussi plusieurs voix. Alors ça serait intéressant. On s'est dit que ce serait intéressant justement de revisiter un peu les objectifs du projet et de s'interroger pourquoi étudier la pop aujourd'hui et de redonner aussi une question à pourquoi Pop en stock devrait encore faire des podcasts aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça qu'on se réunit aujourd'hui. Avant de présenter les gens que j'entends pas l'autre bord de la console, on a eu une petite chronique audio d'une collaboratrice qui est venue quelques fois déjà à Pop en stock, aussi une collaboratrice du podcast Les Amazones, donc je parle bien de Catherine Côté, qui est en cavale dans la dernière année dans les Europes et qui nous a envoyé son témoignage pour justement répondre à ces questions que j'ai mentionnées au début de l'émission. Donc on va commencer d'abord par écouter son témoignage et ensuite on va passer à nous, mystérieuses invitées qui toussent l'autre côté. Voilà, à l'écoute de Catherine.
Bonjour Pop en stock, je m'appelle Catherine Côté, je suis étudiante au doctorat en littérature à l'UQAM et aujourd'hui on m'a demandé de vous parler de mon rapport à la culture populaire pour un spécial Pop en stock sur l'équipe de Pop en stock. Donc moi je consacre ma thèse de doctorat à l'œuvre du géant de la littérature d'horreur américaine, Stephen King. Donc la culture populaire, elle occupe une grosse place dans ma vie, tant dans ma vie personnelle que ma vie universitaire. Stephen King, c'est un auteur que la plupart des gens connaissent ou dont ont déjà entendu parler. Il a écrit 69 romans à ce jour. Il en publie plusieurs par année et la plupart de ses romans ont été adaptés en film ou en série télé. Donc, c'est ça. Stephen King, c'est vraiment un auteur très, très, très populaire. Et si j'ai décidé de consacrer ma thèse à l'œuvre de Stephen King, c'est parce que moi, je me bats contre cette idée qu'ont beaucoup de gens qu'il existerait deux types de littérature. Une littérature dont on peut parler à l'école, une littérature qui est institutionnalisée, qui est encensée par la critique, qui est bonne et qui en vaut la peine. Et d'un autre côté, on aurait une littérature populaire qui, elle, n'a rien à faire dans les écoles, qu'on ne devrait pas enseigner et qu'en tant qu'universitaire, on ne devrait pas lire. Donc, ce côté-là, on trouverait tout ce qui est dans le champ de la culture populaire, donc les romans de science-fiction, les romans d'horreur, les romans jeunesse, les romans érotiques et toutes ces choses-là. Moi, pendant toutes mes études universitaires, je me suis fait dire justement cette chose-là. Donc, il y avait des bons livres, ceux qu'on lisait à l'école, il y avait des bons auteurs, ceux qu'on étudiait à l'école. Et d'un autre côté, il existait des trucs que je ne devrais pas lire en tant qu'universitaire, par exemple, les romans de Stephen King. Et moi, ça m'a toujours dérangée parce que justement, j'ai l'impression qu'en me faisant dire que je n'allais pas comprendre ces livres-là, je ne me donnais pas la peine d'essayer de voir si je pouvais les apprécier quand même. J'ai l'impression qu'en disant aux gens, en inculquant aux gens des notions comme ça, on minimise leur rapport à la littérature et à l'art et qu'on sous-estime vraiment de manière flagrante leur capacité à apprécier une œuvre. Moi, je pense que c'est pas parce que tu n'es pas allé à l'université que tu ne pourrais pas essayer de lire Proust ou même apprécier Proust, et c'est pas parce que tu es allé à l'université que tu ne pourrais pas lire Harry Potter. Voilà. Moi, ça m'a pris des années après la fin de mon bac pour être capable de recommencer à lire des livres dont on m'avait parlé à l'école parce que, justement, je traînais avec moi ce traumatisme des œuvres qu'on m'avait décrites comme étant trop compliquées pour des jeunes élèves, des jeunes étudiants universitaires au baccalauréat, tu sais, des choses comme James Joyce, des choses comme Dostoïevski. C'est trop difficile, n'essayez pas de vous y attaquer, vous allez échouer inévitablement. Donc, ça m'a pris des années avant de me remettre de ça et d'être capable de considérer de lire un de ces livres-là, ou du moins d'essayer. Mais bon, finalement, je m'en suis remis et j'ai essayé de donner une chance à Dostoïevski, de donner une chance à Tolstoï, et j'ai fini par réaliser que, de un, c'était vraiment pas aussi compliqué à lire que ce qu'on m'avait dit à l'école, et que, de deux, c'était non seulement des romans qui étaient bien écrits, mais des romans qui étaient intéressants au niveau de l'histoire, donc ils racontaient des choses que j'avais envie de lire, et ce n'était pas, donc c'est ça, des briques absolument impossible à déchiffrer telles qu'on me les avait décrites pendant mes études. Donc, c'est partiellement pour ça que je travaille sur Stephen King dans le cadre de mon doctorat, parce que ben, j'ai toujours eu un intérêt pour la culture populaire que maintenant j'essaie de ramener à un niveau universitaire pour pouvoir dédier en fait ma vie à ça, et aussi parce que je veux me battre pour démocratiser la littérature et détruire cette idée-là qu'il y a des choses qu'on peut lire, il y a d'autres choses qu'on ne peut pas lire. Je crois qu'il faut donner une chance aux coureurs et essayer d'aller lire tout ce que ça nous tente de lire sans se soucier de ce qu'on pourrait en dire dans un contexte universitaire ou autre. Un jour, il y a un intervieweur qui a demandé à Paul McCartney s'il écoutait de la musique classique. Et Paul McCartney a expliqué que lui, en grandissant, il s'était toujours fait dire que la musique classique, c'était réservé aux élites et que s'il écoutait ça, il allait trouver ça ennuyant et qu'il n'allait rien comprendre. Et ça lui a pris longtemps avant de réaliser qu'en fait, la musique classique, ça pouvait être vraiment intéressant et surtout que la musique classique, c'était la musique pop de l'époque. Et que ce que les Beatles faisaient, ben, ça pouvait être la future musique classique.
Donc, sur ces sages paroles de Paul McCartney, je vous laisse. Vive la culture pop. Vive Pop en stock.
Donc, voilà, c'était la chronique de Catherine qui nous avait envoyé, d'outre-mer. Et de ce pas, donc sans plus tarder, je vais présenter mes invités qui sont avec moi de l'autre côté du studio. D'abord, en fait, c'est trois personnes que j'adore et que je suis vraiment contente que vous soyez là aujourd'hui. Sandrine Galland, qui est avec nous. Allô, Sandrine.
Allô.
Ça va bien?
Oh, ça va très bien. Merci.
Roxane Janeway Chartrand.
Salut.
Capitaine Janeway.
Oui, c'est rendu, je pense, usuel maintenant, à Pop en stock.
J'ai aucune idée, c'est quoi
Roxane
ton nom
Janeway.
De famille pour vrai?
Chartrand.
Ben là, elle vient de le dire.
Ouais,
je note.
Mais tu sais, ça me va qu'on m'appelle Janeway publiquement comme ça. Tu sais, éventuellement, si je veux changer de nom, il faut que Janeway soit utilisée ou qu'on me connaisse par ce nom-là. Donc, un jour, je vais officiellement.
Parce que c'est bon.
Je vais faire un changement de nom légal. Pour un nom de Star Trek.
On est sur la bonne voie, là, ça sent bien, là. Et Stéphanie Roussel.
Allô!
Allô, ça va bien?
Correct.
Correct. Fin de rédaction. Donc, on peut revenir un peu sur la chronique de Catherine. Est-ce que vous aviez des choses à ajouter, poursuivre? Non?
Mais moi, ce que je trouve qui est intéressant dans ce que Catherine disait, c'était justement que, tu sais, tu parlais que Pop en Stock a évolué depuis ces dernières années, depuis sa création, puis j'ai trouvé intéressant que Catherine revenait quand même sur un des trucs fondamentaux de Pop en Stock, qui était de ramener la culture populaire à un niveau universitaire et vice-versa aussi, d'être capable de voir dans ces œuvres universitaires-là, pas seulement quelque chose qui appartient à l'élite, mais qui peut être ramené à tout le monde. Fait que j'ai trouvé ça super intéressant d'entendre Catherine ramener un peu les idéaux de Pop en Stock, même 5 ans plus tard, de voir à quel point le projet a changé, mais a pas changé en même temps.
C'est ça, l'objectif est encore le même. Et aussi, j'aimais aussi la manière dont elle inversait aussi le balancier de aimer vraiment dans le sens très sentimental du terme, des œuvres qui sont d'abord et avant tout, on les aborde souvent de façon très rationnelle. Donc, elle parle de Proust, elle parle de Dostoïevski, qui à l'université, c'est étudié justement pour sa forme, c'est étudié pour tout l'intérêt académique que ça porte, mais on peut les aimer, on peut être fan de Dostoïevski et de Proust, comme on peut être fan de Harry Potter et du Seigneur des Anneaux. Donc, il y a ce double mouvement-là, qui est très... je trouve que ça représente très bien Pop en Stock aussi, là, donc...
C'est ça, le fait qu'ils sont pas mutuellement exclusifs, ouais. Pour moi, est central.
Non, c'est quand même fascinant qu'on ait constamment à le redire aussi. Moi, c'est toujours ça qui me fascine. Même dans des milieux pop inclusifs, disons ça ainsi. J'ai l'impression qu'on a tout le temps besoin de le ramener ou de se justifier ou de... Je sais pas, je trouve ça bien, mais en même temps, c'est fascinant que si on sait ces choses-là, on les redit encore constamment parce que tout le temps, ça nous est ramené sous le nez. Il y a des objets mieux que d'autres,
mais dans la pop. Puis même les études comparatives entre des choses classées de différentes valeurs culturelles se font encore rares. Là. Si on étudie la pop, on reste en pop. Il y a encore un clivage entre les différentes disciplines et non un regroupement comme si c'était une masse d'objets culturels.
Donc, ça fait du bien de se le faire redire. Elle le dit si bien.
Merci, Catherine.
Merci, Catherine.
On s'ennuie de toi.
Reviens-nous, Catherine.
On peut entendre ta voix en différé, mais live en studio.
C'est encore mieux.
Oui, c'est ça. Donc, sur ça, mais je pense qu'on va transiter déjà vers Sandrine. Donc, tu avais préparé des petits commentaires chroniques.
Oui, en fait, c'est que je voulais absolument venir aujourd'hui parce que j'adore Pop en Stock. Et là, je me suis assise, je me suis dit de quoi je vais parler. Je vais parler de ma thèse. Mais évidemment, qu'on est en train d'écrire sa thèse, on n'a pas envie de parler de sa thèse. Surtout qu'il y a 3 jours, il a fallu que je défende ma thèse devant ma tante pro-Trump.
Oh boy.
Donc, je peux vous imaginer le. En tout cas, c'était surréaliste comme moment. Toujours est-il que j'étais un peu épuisée de justifier ma thèse. Donc, je me suis assise devant mon écran d'ordinateur pour réfléchir à ce que j'allais écrire. Puis, tout d'un coup, j'ai vécu une appréhension, une espèce de retenue. Parce que j'ai parlé de ça avec quelqu'un qui m'a dit « Ah oui, moi, j'écoutais telle affaire, puis j'étais rendue sur plein de forums, puis je connaissais tout par cœur. » Puis là, je me suis dit « OK, il y a toujours des gens qui aiment plus mes objets culturels que moi. » Et je me suis rendu compte que cette espèce d'appréhension-là était toujours là quand je rencontrais des popeux, donc des fans de pop. Et pourtant, j'ai toujours aimé le pop, je pense comme toutes nous ici. Là, c'est une grande consommatrice. Ouais. Là, j'ai commencé par la musique pop avec Britney Spears, puis ça n'a jamais terminé.
Je veux dire, les Backstreet Boys, puis les Spice Girls. Tout.
Ça, ah ouais, c'est Mixmania.
Mixmania.
Voilà.
Je suis un peu trop vieille, je suis désolée.
Mais
j'ai fait une référence à Aucun Regret dans un courriel tout à l'heure, donc...
Ah, merci. Fait que fan malgré toi.
Ah ouais.
Consommatrice malgré toi.
Caché. Exact. Mais bref, puis là, j'ai essayé de penser à la première chose qui m'avait passionnée, puis j'ai pensé à Fortier, puis je trouve ça drôle parce que je sais que, justement, Jean-Michel Berthiaume est en train de retravailler sur les fandoms québécois, et je me souvenais que chaque soir, j'étais assise dans mon salon, on écoutait, ben pas chaque soir, mais chaque semaine, on écoutait Fortier, et à chaque pause publicitaire, j'appelais mon ami. Puis on parlait de ce qui venait de se passer. Puis on essayait de développer nos intrigues, chacune de notre côté. Mais alors là, quand j'ai avancé dans ma vie académique et même personnelle au secondaire, je me suis rendu compte que quand je partageais mes coups de cœur pop avec d'autres de manière, disons, plus sérieuse ou plus académique, c'est là que je réalisais que mes passions, ce que je pensais de mes passions, elles semblaient bien petites à côté des autres. On dirait toujours que j'aimais pas assez ou pas assez fort ou pas de manière suffisante. Et là... je me suis rendu compte, dans le fond, j'ai jamais vraiment appartenu à aucun fandom, vraiment. Je connais pas beaucoup de répliques par cœur. Certaines, oui, mais pas beaucoup. Je consulte pas des forums, des behind the scenes, des fun facts, des trivia. Puis là, je me suis rendu compte que, en avançant dans ma culture pop, j'ai compris que, en pop, quand même, la façon d'aimer était presque aussi, tout aussi codée que les multiples tropes et genres qui composent la culture pop. Et là, je me suis retrouvée face à un horrible questionnement. pour pas dire un sentiment d'imposture encore. Est-ce que je pouvais vraiment dire que j'aimais le pop si j'arrivais pas à défendre mes amours devant l'éternel? Si toujours, quelque part, quelqu'un les aimait mieux que moi. Alors là, en préparant la chronique, j'étais paniquée. Là, je me suis mis à fouiller la mémoire, puis j'ai cherché tous les objets que j'avais aimés pour essayer de prouver que je les avais aimés bien. Là, j'ai pensé aux Cowboys fringants, puis je me suis dit, OK, c'est bon, t'aimais vraiment beaucoup les Cowboys fringants, tu connaissais tous les albums, t'étais sur le forum, donc vous voyez, j'ai été sur un forum, j'étais à des rencontres de membres de forum, j'avais un chandail signé, j'étais fière. Je me suis dit, OK, c'est bon, j'ai été Cowboys fringants. Puis là, j'ai pensé au cœur et ses raisons. On m'en parlait récemment. Je regardais les épisodes de télé avec un petit calepin. Je prenais en note tous les gags, et puis ça devenait des running gags avec mes amis et moi. On pouvait pas passer une journée sans qu'il y ait un « j'ai les mains dans les poches » fashion sorte, ou « je suis pleine de sagesse et de sauce à spaghetti ». Donc, il y avait quand même tout ça qui ponctuait nos échanges, puis maintenant, quand j'y repense, ça fait des années, là, le cœur c'est raison, je pourrais même pas dire quelle année. Vous voyez, mauvaise popeuse, oui. Je ne connais pas les dates des choses.
Plus que 10 ans, point.
Voilà.
Ouais, non, plus que, presque 15 ans,
ouais,
je
c'est
pense.
Ça. Plus que 10.
Ben c'est ça, puis pour penser aux phrases clés, il fallait que je repense à des amis, c'était relié à des conversations. Puis là, évidemment, il y a eu DL Word, qui pour moi a été central. Là, j'ai dû l'écouter 7 reprises avec différentes personnes. Ça m'a habité pendant des années. Encore aujourd'hui, quand je reconnais un visage dans un film et que je me demande d'où je connais cette actrice ou cet acteur, même s'il a joué dans des choses beaucoup plus connues, c'est souvent parce que c'était un troisième rôle à l'époque, quelque part dans un épisode de DL Word. Mais bon. Comme je l'ai vite découvert sur le forum des Cowboys fringants à l'époque, peu importe mon objet d'amour et peu importe comment je l'aimais, il y avait toujours du monde qui avait vu plus de shows, qui connaissait les choses sur la vie privée des acteurs, leur adresse, leur numéro de... leur resto préféré, leur anecdote d'enfance, ou surtout même des femmes qui allaient créer des objets artistiques autour de ceux dont ils étaient les fans. Et moi, pendant ce temps-là, je contemplais mon amour qui me semblait bien faible. Tout ce que j'avais fait, il me semblait, c'était d'écouter un film, d'écouter une série et de l'avoir aimé. Puis ensuite, j'ai compris, heureusement, un peu comme le disait Catherine, que je faisais pas que les aimer. Je les pensais aussi, je les problématisais, je les étudiais. Je les articulais à ma posture, à mes expériences. Ils m'habitaient et en retour, je les laissais me décentrer, m'amener ailleurs. Et aujourd'hui que je complète cette fameuse thèse, en tout cas, j'espère la compléter, dont les objets de recherche sont complètement pop, et que je sens monter en moi cette vieille crainte à chaque fois que je travaille dessus ou que j'en parle, que toujours quelqu'un quelque part aime plus que moi ou aime mieux que moi, alors je me dis, OK, c'est bon, revendique-toi de ton amour boiteux, incomplet et insuffisant. Et donc, dans le cadre de ma thèse, parce que je me suis dit, j'en parlerai quand même un peu, je m'intéresse à celles qu'on appelle très largement les féministes pop, c'est-à-dire les superstars auto-sacrées comme chef de file et porte-parole du regain que vit quand même le féministe depuis une quinzaine d'années, disons. Pour faire figure, là, pensons à Beyoncé, Lana Dunham, Tina Fey, Amy Schumer, Amy Poehler. Et je pose l'hypothèse que les féministes pop ouvrent un espace discursif dans lequel elles déposent une énonciation, donc vraiment une parole intime, qui permet d'éviter leur absorption totale et passive dans le système, dans le fond, c'est toujours des stars qui parlent à partir du pouvoir, donc que leur énonciation intime évite qu'elles soient complètement absorbées par ce système. Et en fait, le but de la thèse est au final de comprendre comment peut s'articuler la part d'intime dans le spectaculaire du féminisme pop. Mais... malgré tout ça, j'ai quand même pris au moins un an et demi à écouter Lemonade de Beyoncé. Et en toute honte, là, tout le monde l'écoutait. Je me disais, je ne l'ai pas écouté encore.
Je ne l'ai pas encore écouté.
Je ne l'ai pas écouté non plus. Là.
Oui, mais moi, j'avais pas d'excuses.
Ben, moi non plus.
Ben, c'est ça. Et puis, j'ai décidé, OK, Roxane Gay, l'autrice qu'on connaît bien, a décidé qu'elle pouvait se revendiquer d'être une bad féministe parce qu'elle écoute des chansons de hip-hop dégradantes pour la femme. Moi aussi, d'ailleurs. Et je salue aussi mon passage, mon amour pour les Vin Diesel et Dwayne Johnson de ce monde que vous connaissez bien. Mais j'aimerais aujourd'hui que, tout ensemble, on puisse se revendiquer, se donner le droit d'être une mauvaise popeuse, de ne pas avoir tout vu, de ne pas avoir d'opinion sur tout, et surtout de ne pas tout connaître, et de juste simplement se donner le droit d'aimer, point à la ligne, juste d'aimer un objet, et de ne plus jamais penser que ça ne suffit pas. Voilà.
Oh là, my God!
Moi, je suis vraiment une mauvaise popa.
Mais aussi. Mais on l'est tous.
Mais c'est aussi d'arrêter d'essayer de hiérarchiser cet amour-là, de faire... C'est pas parce que tu connais tout que t'aimes les objets. Par exemple, moi, j'ai fait mon mémoire sur Alien. Fait que je suis à Alien Girl. Je connais absolument tout de cette franchise-là, mais c'est pas un
c'est
objet
pas
de mon fandom.
Ouais, c'est ça. Moi, je connais tout Ciné-Cadeau, puis j'aime même pas Noël.
C'est un excellent exemple.
Ouais, c'est ça. Mais comme pour enchaîner avec ma chronique que j'avais préparée, mais c'est ça, pour parler encore d'Alien, j'en parlais avec Rachel Hippolyte, qui vient souvent ici, qui voulait peut-être venir, mais qui n'est pas avec nous. Malheureusement, j'aurais vraiment aimé que ce soit là, Rachel.
Oui!
Mais elle me disait qu'elle aimait plus Alien, comme c'était vraiment une fan d'Alien. J'ai dit, t'es probablement une meilleure fan que moi. Moi, je connais peut-être toutes, mais j'ai pas la passion pour les xénomorphes, par exemple.
Ouais.
C'est ça, j'ai comme vraiment un rapport très académique avec cet objet-là, versus d'autres objets, par exemple, comme Doctor Who, où c'est vraiment juste entièrement passionnel. J'ai souvent des obstinales avec Roxane, parce qu'elle est comme très rationnelle. Je suis comme, oui, mais moi, j'ai eu du fun.
Voilà. Puis on n'aime pas du tout de la même manière. Non, puis ça, je trouve ça intéressant. Mmh. Tu sais, moi, puis on va toujours le répéter, j'aime la cohérence dans la complexité. J'aime quand, tu sais, quand tous les bouts se raccordent ensemble, puis que ça fonctionne. Puis Megan est capable de faire fi de ce genre de truc-là, puis de juste apprécier ce qu'il y a dans elle.
Moi, je veux juste que tu me fasses vivre des émotions.
Voilà, qu'est-ce qu'on va moi aimer dans un objet voilà. aussi?
Est-ce que ça veut dire qu'on n'aime pas, genre, Doctor Who? C'est faux, on
non,
l'aime
chacun
les deux énormément, mais on ouais. l'aime pas de la même manière, puis c'est correct.
Oui, c'est ça, puis vous pouvez aussi avoir tout à fait tout oublié de Doctor Who, mais l'avoir adoré mm-hmm. au moment où vous l'avez
écouté. C'est aussi quelle mémoire on a, parce que moi, j'ai oui. une bonne mémoire pour les dialogues et pour les quotes, là, j'aime quoter, mais pour le reste, comme demandons pas les noms des planètes ou dans Star Wars ou des personnages, là, comme les noms des personnages, je les oublie tous.
Qui ont des mémoires encyclopédiques, ouais, qui est complètement fascinante, tout à fait.
Puis après, c'est comment tu vis ce fandom-là, ça... Chacun a sa manière aussi de vivre, mais c'est très intéressant ce que tu amènes comme point parce que ça rejoint un peu mes recherches personnelles pour ma thèse, qui sont plus sur Alien, mais qui sont sur...
Enfin, tu n'es plus seulement la Alien Girl.
Non, je vais rester pour
faut
toujours.
Faut s'émanciper là. Des fois.
On essaye.
C'est sortir du xénomorphe.
Allez, go!
Laissez le xénomorphe sortir de moi.
Oh. C'est genre le titre de ta biographie.
Ou celle de sa mère.
C-section baby, ici. Mais oui, c'est ça. Mon sujet de thèse, en fait, c'est exactement dans la problématique que tu abordes. C'est l'étude d'une identité universitaire qui est celle des Academics Fans ou des ACA Fans, abréviation de Henry Jenkins. Donc, c'est ça. Donc, c'est les fans à l'université qui étudient les objets pop, mais avec une approche qui est à la fois celle des fans et celle des universitaires. Mm-hmm. Donc, espèce d'hybridité des approches entre l'expérience émotionnelle, émotive, l'expérience d'amour des objets qui est très très divergente d'une personne à l'autre et celle très rationnelle, objective qu'on a appris au cours de notre parcours là. Donc essayer de se distancier des objets pop, de ne pas justement les laisser nous habiter, mais de les voir avec un œil externe, les critiquer vraiment toute cette idée là de voir les idéologies, là, c'est très adornien là, d'essayer de faire attention à ce qu'on soit pas aliéné par la pop. Donc de voir comment on peut essayer de combiner ces deux approches-là dans une approche méthodologique qui est plus représentative de c'est quoi étudier la pop aujourd'hui, donc celle des fans. Les fans mm-hmm. connaissent, les fans qui vont pas à l'université, là, je veux dire, connaissent beaucoup plus de choses sur mes objets d'étude que j'en connais sur eux. C'est d'essayer de voir aussi comment on peut sortir l'université de l'université et comment la réflexion, c'est pas quelque chose qui appartient à l'université, mais qui appartient à tout le monde. Puis les fans, sur Internet en plus, on le voit encore plus, c'est foisonnant de réflexion et de théorie, et justement, ils vont chercher même des théoriciens pour les intégrer à leur pensée. Puis c'est des fan theories aussi qui vont tellement loin qu'on n'aurait jamais imaginé. Fait aussi, Pop en stock, pour moi, c'est de sortir de l'université. C'est sûr que là, pour le podcast, c'est de mettre nos voix dehors. Pour le blog, c'est d'écrire des articles qui peuvent éventuellement être accessibles à tous et à toutes. Donc, toute l'idée aussi de vulgarisation, c'est, selon moi, très, très important dans Pop en stock. Et c'est même essentiel parce que, puis on le voit souvent, Sandrine, t'es allée aussi au cégep pour faire des conférences. Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Mais aussitôt qu'on sort de là et qu'on parle d'objets pop, ils n'ont pas besoin d'assimiler le corpus. Ils sont déjà au courant de tous les tenants de ces corpus-là. Donc, on peut aller directement dans la réflexion, directement dans la théorie et dans la critique aussi. Donc, il y a quelque chose de magnifique avec le pop où c'est une culture qui appartient à tout le monde. Donc, tout le monde peut y réfléchir et aussi développer. C'est ça, des théories, des réflexions, d'y penser, de discuter, de... Puis c'est très, très communautaire aussi, là, comme approche, là. Tu parlais de forcer, t'appelais ton ami, puis là, vous parliez de...
Ça, c'est vraiment cute. J'aurais vraiment, vraiment aimé ça, pouvoir partager ouais. ça avec quelqu'un.
Oui, ben tu sais, c'était avant tout, on avait juste le téléphone.
Ben oui, c'est ça.
Dans le temps où on avait encore des landlines. Ouais. Hein.
J'en ai encore une.
Oh, oh wow.
Dieu, disclosure.
T'es tellement une vraie adulte. Ça paraît que t'écoutais pas Mixmania.
Mais elle a fait quand même des références
à aucun regret.
C'est ça, notre culture commune. Mais c'est ça, pour aussi transiter un peu, ma culture qui m'intéresse quand j'étudie la pop, c'est la culture mainstream. Donc, c'est la culture qui touche le plus de gens parce qu'elle est faite pour ça, là. Donc, je trouve ça intéressant d'aller directement dans le mainstream du pop, donc dans le culture de masse, là, celle qui s'adresse au plus de gens possible, parce que en l'étudiant, ça nous permet d'en apprendre beaucoup sur prendre le pouls un peu de notre société, là, donc de voir qu'est-ce qui plaît et qu'est-ce qui plaît pas, et ça peut aussi être dans un mouvement inverse, une espèce de vecteur de changement aussi, parce que on le voit dans les dernières années, là, surtout depuis 5 ans, c'est très très présent, là, donc les discours féministes qui vont dans la pub de savon ou...
T'es dans ma thèse, là.
Ouais, c'est ça, exactement, là. C'est de voir comment que ces discours-là soient arrivés dans le mainstream, ça montre qu'il y a un changement de société et qui s'adresse pas juste justement au mouvement militant, mais à la masse.
Mais ce que je trouve fascinant, c'est que ça nous apparaît tous évident ici autour de cette table, mais une fois qu'on est à l'université, honnêtement, c'est pas tant évident. C'est ça qui est fascinant, c'est que moi, je me disais, je suis à l'UQAM, il y aura pas de problème. Il y en a pas vraiment eu, mais il y en a toujours quand même un peu. Je sais pas comment dire qu'on est au moment de défendre notre thèse à l'examen doctoral. On dirait que c'est drôle, parce que tu dis, ouais, je suis dans une des universités les plus pop qui existent. Mais quand même, il y a des vieux réflexes qui sont là, puis soi-même, on les oublie, puis on y retourne. En tout cas, moi, c'est vraiment une tension qui est constante dans ma thèse, et j'imagine qu'elle sera là. Mais ce qui est intéressant pour la tienne, c'est que ça va être l'objet même de ta thèse, c'est cette tension-là.
Mais c'est ça, on va aller directement. Je vais essayer d'aller...
S'il te plaît.
Ça s'en vient.
Là. Des fois, c'est essayer de dépasser cette tension-là. Moi, c'est plus ça que, tu sais, au lieu de juste se justifier à étudier quelque chose, on pourrait l'étudier.
Ben oui, mais...
Tu sais, des fois, dépasser le moment de justification.
Mais mon objectif, c'est vraiment de plonger dans la tension plutôt que de l'assumer, là, de voir que cette tension-là nous forme et nous transforme éventuellement, parce que dans les deux opposés, ça, c'est une thèse que... Comme j'aime voir le populaire comme ça, c'est une tension constante entre du très, très mainstream et des trucs plus conventionnels, entre des mouvements très, très marginaux qui sont très, très porteurs, justement, de nouveautés et de transformations, et une convention, justement, aussi mainstream, mais très hégémonique, là. Donc, la culture blanche, hétéro-normative. Il y a toujours ces tensions-là, et c'est à travers ces tensions-là que la pop mute. Il devient autre chose. Et en ce moment, on est en train de l'observer et je trouve ça magnifique.
À 100 000 à l'heure, oui, tout à fait. Voilà. J'ai hâte. Non,
mais... Let's do this.
On va changer le monde.
Nous quatre assis autour d'une table.
Mais je trouve ça intéressant de l'idée de... Je vais pas penser ça de cette façon-là, mais effectivement, il peut y avoir un complexe à quel point on aime quelque chose. Puis surtout dans le monde universitaire où les gens qui se sont mis ou qui ont revendiqué la pop, c'était des fans qui accédaient enfin à l'université, donc ils pouvaient mettre en valeur toutes ces connaissances-là, c'est au fur et à mesure. Mais on oublie aussi que la pop s'adresse à des gens qui ne sont pas des fans. Qu'il y a beaucoup de personnes qui consomment tous ces objets-là sans être des fans.
Ouais.
Qu'il y a d'autres intérêts qu'être fanatique d'un groupe de musique, puis tu peux écouter cette musique-là dans ta voiture une fois de temps en temps. Tu connais pas les chansons, tu connais pas le nom des membres de ce groupe-là, mais t'aimes ça.
Ça
fait partie de ton quotidien et tu le consommes de cette façon-là. Puis je pense qu'il faut pas perdre de vue que ce type de consommation-là de la pop existe et clairement, en fait, prédominant dans la consommation mainstream, parce que probablement qu'il y a plus de personnes qui consomment ça de façon...
J'ai dit butiner tout à l'heure dans mon bureau.
Qui butine la culture pop que des personnes qui s'investissent soit d'un point de vue universitaire soit d'un point de vue fanique. Puis moi, je suis une très mauvaise popeuse si on s'en tient au mot au fan, parce que je suis une personne très passionnée, mais je pense que je n'ai pas de passion. Je pense que j'ai dit ça toute ma vie, là. Ah, tu sais, tout le monde a l'air d'avoir quelque chose là, qui les anime, la musique, un groupe, quelque chose. Moi, il y a plein de choses qui m'intéressent, rien en particulier. J'ai une seule dédicace chez moi, c'est de Sylvie Desrosiers, de mon livre de Notre Dog, quand j'avais 8 ans au Salon du Livre, ma mère m'a emmenée. J'ai fait comme tous les autres enfants, j'ai fait signer mon livre. Je sais même pas si j'ai accordé l'importance, j'étais contente de faire comme tout le monde. Puis j'aimais vraiment ce livre-là quand même.
T'as encore la passion de Notre Dog aujourd'hui, par
exemple. Ouais, c'était quand même le fun, là. Hey, un chien qui est sale, des enfants qui veulent remettre en question l'autorité, puis le personnage principal, c'est une fille, tout pour me plaire.
Voilà. Oui, mais tu l'as dit, c'était quand même le fun. Ah oui, c'est
pas, juste besoin d'être
c'est, ça. C'est pas passionnel.
Non,
c'était quand
le
même
fun.
Le fun.
Puis moi, j'ai commencé à étudier la culture pop à l'université parce que je trouvais ça le fun, quand même le fun, la science-fiction. Je suis pas fan de science-fiction. Je pourrais jamais me débattre avec quelqu'un, mais je trouvais ça le fun, donc je me suis inscrite à l'UQAM. J'ai voulu étudier la science-fiction. Puis là, j'ai étudié trucs de pop parce que moi, ça m'habite. Je viens d'un milieu pauvre. Qu'est-ce qui circulait dans mon milieu? C'était des choses populaires, mainstream, et de personnes pas fans. Juste de personnes que c'est la seule culture à laquelle ils ont accès et la seule culture à laquelle ils pensent. On met pas en comparaison à Proust. Proust n'existe juste pas.
Oui.
Donc, eux, ils ont cette culture-là. Et comme tout le monde, ben comme ils mangent des clémentines, des fois ils écoutent des films et ça la donne que c'est ces films-là qui aiment à certains degrés, d'autres plus que d'autres qui vont être fans et d'autres moins fans. Bon, donc c'est juste une question de consommation. Puis là, moi je me suis mis à réfléchir à cette culture-là, comme je pense pas que quelqu'un qui lit Proust est nécessairement fan de Proust, il fait juste analyser Proust.
Il y en bon, a,
mais
il y en
a. Le fan de Proust, c'est Gérard Genette. Il a fait son œuvre au complet, c'est vraiment une œuvre de fan.
Jerry.
J'ai vraiment hâte de parler de ça dans ma tête.
Oh! J'avoue, c'est cool ça.
Oui, c'était vraiment un fan. Mais comme il y avait un amour pour Proust dans ce sens-là. Fait.
Ah, c'est vraiment. Ouais.
Ouais. Fin de la parenthèse.
Mais bref, moi, pas, je ne juge pas Gérard Genet, je n'aime pas particulièrement Proust ni rien. C'est triste dans ma vie. J'écoute, hey, je suis une consommatrice amnésique. J'écoute un nombre incalculable de choses et je ne me souviens de rien des titres. Des fois, je réécoute la même affaire, puis après une demi-heure, je me rends compte que je l'ai déjà vue.
J'ai lu trois fois L'étranger.
Oh my God. On a déjà eu une conversation de genre 10 minutes sur Queer Eye. Puis Steph avait complètement oublié qu'elle avait écouté tous les épisodes de Queer Eye.
Et j'avais pleuré pendant...
Oui, 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 ça t'a quand même marqué pendant ton écoute.
Je sais toutes les choses obscures qui se passent sur Netflix, là. Mais j'ai oublié. Fait que peut-être qu'après 10 minutes de conversation, je vais pouvoir vous dire « Ah oui, oui, telle affaire existe ». Mais en dehors de ça, consommatrice amnésique, donc j'ai commencé mes études... Pas quand j'étudie quelque chose, c'est là, je m'applique comme tout chercheur. Je cherche à savoir qu'est-ce qui se passe dans les objets qui m'intéressent, que je prends, au fil de mes rencontres dans la vie. Puis, je m'en vais avec tout ça. Donc, puis moi, je me suis dit, j'allais à la maîtrise et j'allais faire comme qu'est-ce que j'avais toujours fait pendant mon bac. J'allais étudier quelque chose de la culture mainstream, un objet pop. Qu'est-ce que je considérais comme pop à l'époque. Puis, j'ai lu Proust. Hein?
Ah! Mon Dieu, mais comment Proust s'est installé dans cette séance?
J'ai jamais lu Proust. Okay?
Moi non plus!
Ah, mais moi, j'étais en voyage en Asie. J'avais 5 mois devant moi à pas avoir l'horaire que j'ai à Montréal. Donc, j'avais le temps de lire Proust. Quand est-ce que tu as le temps de lire Proust à part en voyage? Je ne sais pas. Donc, je le télécharge sur ma tablette. Léger, une tablette. Je me mets à lire Proust.
Déjà, est-ce que c'est pas juste un peu, comment t'appelles ça, le... pas problématique, mais...
Oui, comme une montre au... Oh mon Dieu, comment on dit ça? Peu importe. Le mot chronique, là, quelque chose.
Oui, c'est ça. C'est quand même
anachronique. Anachronique.
Proust sur une tablette.
Moi, c'est l'anachronisme de Proust. Je m'en viens en plus là-dessus. L'anachronisme de Proust. Donc, je lisais Proust sur ma tablette, puis là, je me rendais compte que qui peut lire Proust aujourd'hui? Parce que qui n'a pas déjà dit « Ah, je te reviens, je finis mon paragraphe » ou « Ah, je vais finir ce chapitre-là avant d'aller me coucher. » Mais tu peux pas faire ça avec Proust. C'est 300 pages avant le chapitre, à la fin du chapitre. C'est 50 pages avant la fin du paragraphe. Tu peux dire à quelqu'un « Je finis mon paragraphe. »
Même finir ta phrase, des fois, c'est compliqué.
C'est compliqué, là. J'aimais mon expérience, mais je me disais que ça ne convenait pas au mode de lecture qu'on avait aujourd'hui. Qui peut lire Proust aujourd'hui en dehors de l'université? Parce que qui peut lire Proust dans sa vie quotidienne, dans tous ses réflexes de lecture qui sont « je vais finir un certain segment et mettre de côté ma lecture pour vivre ma vie quotidienne ». Là, on était complètement en dehors de ça. Peut-être qu'à l'époque, la femme bourgeoise, chez elle, avait tout le temps qu'elle voulait pour lire ses 300 pages, fermer son livre et dire qu'elle allait coiffer ses cheveux. Je ne sais pas qu'est-ce que la femme bourgeoise faisait à l'époque.
Elle lisait pendant qu'elle se faisait coiffer.
Peut-être. Ah! Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle faisait, mais je me dis que ce mode de lecture-là a dû être adapté à quelqu'un, a dû un jour être correct dans l'horaire de quelqu'un, et ce n'était pas le mien, à part en Asie, en voyage dans le train. Ce qui n'est pas un horaire très conventionnel, donc c'était toujours pas adapté. Et là, je me suis mis, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie d'étudier juste la pop d'un point de vue mainstream, ou est-ce que je veux penser la pop dans un quotidien? Qu'est-ce qui rentre dans le quotidien des gens, et qu'est-ce qui est populaire? Qu'est-ce qui est, genre, à d'autres niveaux? Puis là, je cherchais un corpus qui serait plus finalement nécessairement ça. Puis bon, comme j'aime pas grand chose dans la vie, j'ai rencontré un directeur potentiel. Il m'a dit mais qu'est-ce que t'aimes? Puis là je me suis mis en angoissée. Ça a été problématique parce que je sais pas. Puis là j'ai réfléchi. Puis là j'aimais quelque chose. Rencontrer des gens. Des fois on aime les gens. J'aimais ça aller boire des bières dans les micros ouverts avec des amis, des gens qui étaient devenus mes amis. Et pour moi, ça représentait aussi la pop. Parce que des gens qui sont monsieur, madame, tout le monde, ne sont pas nécessairement des consommateurs, peuvent être eux aussi des créateurs. Et donc, dans ces micros ouverts-là, ils montent sur une scène. Je fais vraiment beaucoup de détours pour expliquer qu'est-ce que je veux dire. Donc, ils montent sur une scène pour réciter des poèmes. Puis c'est là que ça m'a marqué parce que je me suis dit, ah, mais là aussi, on est dans le pop, je vais étudier ces soirées-là de lecture. Voir qu'est-ce qu'ils font, justement, dans ce rapport à la lecture, qui est assez différent de lire un livre de manière silencieuse, dans toute l'idée de l'artiste, des rapports de pouvoir, des rapports de hiérarchie, donc tout ce qui fait la culture aussi, des distinctions culturelles, que la pop essaie d'abattre sans le faire nécessairement parce qu'il crée plus de mondes parallèles. Alors que là, on parle de poésie, donc, et on parle de populaire à un autre sens, donc il y a comme des rencontres de définitions qui se rencontrent et qui s'opposent. Donc, on est obligé de repenser des noyaux pour redéfinir les choses. Puis là, je me suis dit, OK, oui, OK, je sais quelque chose, je vais pouvoir enfin penser quelque chose qui est à la fois dans le pop, puis, bon, que je fais quotidiennement, donc que j'aime, et sans me trouver un corpus, sans lire plein de choses que j'allais oublier. Apparemment, parce que j'oublie des choses et on oublie tout dans les micros ouverts, donc tout était fait pour
tout
moi.
Tout est dans tout.
Mais je me suis quand même confrontée à... Tout le monde me disait « Ah, mais c'est de la poésie, donc c'est pas de la pop. » Et d'autres personnes me disaient « Ah, mais c'est tout le monde qui peut lire, donc c'est pas de la littérature. »
C'est pas un corpus valable.
C'est pas un corpus valable. Donc, pour moi qui venait de la pop, qui s'était jamais posé ces questions-là de valeur littéraire en tant que telle parce que j'étudiais la pop, ça me semblait tout à fait normal de considérer ce corpus-là en dehors de ces questions-là. Et pour le côté populaire, on était « Ouais, mais c'est pas une industrie culturelle, donc est-ce que c'est réellement de la pop? » Donc moi, je me suis encore plus posé des questions. Oui, mais là, on rencontre quand même justement cette question-là. Est-ce que pour les études littéraires en ce moment, il faudrait absolument qu'il y ait l'idée de gatekeeper, qui est les éditeurs, les maisons de disques, les producteurs, donc toutes les personnes, les critiques, toutes les personnes qui permettent à un produit culturel de se faire diffuser, donc de se créer et d'arriver au public. Ça peut aller jusqu'à un gestionnaire de forum qui décide si un fanfiction est publié ou non. Donc, ça serait un gatekeeper moins reconnu et peut-être moins difficile à certains niveaux, mais un gatekeeper quand même, alors que dans les micros ouverts, il y en a pas. Puis souvent, on va considérer les gatekeepers sur deux points. Soit est-ce qu'ils font de l'argent? Donc, est-ce qu'ils sont une industrie culturelle? Ou est-ce qu'ils ont une valeur littéraire? Donc, est-ce qu'ils sont dans l'industrie littéraire et l'institution culturelle? Donc, comme l'industrie culturelle et l'institution qui s'opposent. Et moi, je suis dans une frontière entre les deux. Puis c'est vraiment cette question-là de pas nécessairement aimer les choses, justement. Mais ces gens-là s'aiment pas tous non plus entre eux, mais consomment mutuellement leur culture. Genre, à quel point rencontrer les choses, se faire... dit plein de choses pendant 10 minutes, mais je sais plus c'est quoi la conclusion que je voulais arriver.
Mais c'est vraiment comme c'est les
je suis désolée.
Les usages là de Michel de Certeau, donc c'est vraiment dans le quotidien de reprendre une culture qui est soi-disant hégémonique et de la faire sienne et de la partager aux autres et de comme la faire circuler aussi dans le monde. Moi j'avais une question pour toi. Est-ce que tu pourrais dire Sans nécessairement avec toute la connotation que le mot « fan » a, est-ce que tu pourrais dire que tu as un rapport « acafan » avec les open mic?
Ah non.
Mais t'as dit que t'aimais ça. Puis tu aussi, c'est une façon...
J'aime pas tous les open mic, non.
Non, mais je veux dire, t'aimes le principe.
J'aime pas tous les sujets de Star Trek, mais je suis pas mal fan de Star Trek.
Mais tu t'immerges aussi dans ce monde-là, tu l'as vécu, tu l'as expérimenté, et tu l'abordes d'une manière très académique en même temps. Donc... ça pourrait aussi être une manière, justement, hybride d'aborder un objet culturel qui, lui aussi, est hybride.
C'est ça, t'es peut-être pas fan, t'es peut-être acafan, comme Megan dit, c'est peut-être un truc différent aussi.
Je serais une fan avec beaucoup de frustration.
Mais les fans sont très frustrés.
Dieu, on est toujours frustrés.
Oh oui.
Je sais pas, je vais réfléchir
Je pense que la part aussi de la frustration, c'est que t'aimes tellement ton objet que ça te frustre quand il y a des affaires qui marchent pas comme tu penses.
Ça, je peux vous en parler longtemps.
Ouais, c'est ça.
Mais moi, c'est pas envers les... Tu sais, qu'est-ce que j'aime de mon objet, puis qu'est-ce que je revendique, c'est cette possibilité-là d'expression que tout le monde essaie d'éliminer ou essaie de faire disparaître, de dire à plein niveau, soit les gens vont dire que c'est plate, soit les gens vont dire que ça n'a aucune valeur, soit les gens vont dire que c'est éphémère, que ça ne concerne pas cette personne. Donc, mais ça existe. Moi, c'est ça qui me passionne, c'est plus... que quelque chose existe pour lui-même, pas pour satisfaire des considérations extérieures, pas pour se faire reconnaître, pas pour gagner de l'argent, mais pour exister en soi-même comme une activité, comme on parle à des amis, comme on sort de temps en temps, ça sert pas nécessairement à quelque chose, mais ça nous fait du bien.
Ben, comme écouter Doctor Who, comme écouter de la musique. C'est un peu le même principe, mais en même temps, il y a le fandom qui nous frustre parce qu'ils sont jamais d'accord avec nous et essayent de restreindre ça ou de l'identifier à une industrie qui veut juste faire de l'argent comme pour les féministes pop ou donc il y a tout le temps cette, encore une fois on revient à la tension, mais c'est en cette frustration et cet amour. Donc voilà, c'est pour ça que j'émettais l'hypothèse.
Peut-être. Puis après, ça rejoint plein de choses en publication, comme justement les fanfictions.
Oui,
il n'y a pas grand-chose de différent entre un open mic puis une fanfiction, à part que les fanfictions gagnent une certaine légitimité à se baser sur une œuvre que d'autres personnes reconnaissent, donc ils ont un lectorat assuré, si on veut. Mais en dehors de ça, c'est un désir de création.
Oui.
Des fois, c'est même une excuse de création, de se bâtir sur quelque chose qu'on connaît.
Oui, exactement. Wow. Merci, Steph.
Hey, Steph, confus, hein?
Mais on va... Non, mais tout, en fait, je pense que t'as l'impression que c'était confus, mais non, moi, j'étais là, puis j'ai hoché la tête tout le long, parce que, en fait, c'est super intéressant. Ce qui semble revenir depuis tantôt, c'est notre espèce de dualité interne.
Oui.
Puis, on est toutes là à différemment dire comme, ouais, mais tu sais, on a notre côté académique, mais on a aussi notre côté pop, puis comment on arrive à conjoindre ces deux trucs-là, comment on est capable de vivre avec notre élitisme interne, mais aussi notre envie de faire partie de la gang, je dirais. Puis, moi, mon parcours est un peu l'inverse du tien, Steph, en ce sens que moi, j'ai commencé à faire des études en littérature avec le petit doigt levé, puis des études en philo avec les deux petits doigts levés. Puis, c'est intéressant.
Comme tout le monde en philo, je suis désolée, les gens.
Ben, si les gens en philo avaient quatre petits doigts, ils lèveraient les quatre en même temps. Puis, j'ai essayé. J'ai tellement essayé de ramener cette espèce de côté rationnel là qui vient avec l'étude académique. Être une vraie académique, c'est être quelqu'un qui se pose les vraies questions, qui réfléchit aux vraies œuvres puis aux vraies choses, puis qui aime ça lire Kant un samedi soir, puis qui aime ça parler juste de philo médiéval quand elle va dans un bar. Puis, oh mon Dieu, que ça a été difficile. Ça a été les plus difficiles années de ma vie parce que... Ben moi, je suis une fan de science-fiction à la base. J'ai grandi en faisant de la musique et j'ai toujours voulu être une chanteuse pop.
Moi aussi!
Oh, quel bonheur!
On est pareil!
On est la même personne! Puis, je me suis retrouvée un peu dans un milieu où, comme tu disais, un syndrome de l'imposteur pop, où tout le monde avait l'air soit meilleur que moi, soit de connaître plus de trucs que moi, soit de l'aimer plus que moi dans un milieu pop. Et dans le milieu philosophique, académique, tu sais, ma première session en philo, mon premier cours de métaphysique au bac, je me suis fait demander si j'avais choisi mon sujet de mémoire, tu sais.
J'arrive
dans un monde où... Oui, non, mais tu
sais... Je sais même pas si je l'ai encore choisi, mon sujet de mémoire.
T'arrives... Non, mais c'est ça, tu sais, t'arrives en philo à l'UDM, puis ta première session de bac, puis c'est un cours de première année, c'est genre le premier cours que tu dois suivre, c'est comme... Bon, ben, tu sais, let's go, embarque, parce que, tu sais, un bac en philo, ça sert à rien, c'est ta maîtrise, puis ton doc qui compte, tu sais. Puis... T'arrives là, puis tout le monde a déjà lu La République de Platon. Puis moi, je suis pas intéressée à lire La République de Platon dans son entièreté. Ça m'intéresse juste pas. Puis j'avais le goût de faire...
Sacrilège.
Ah, je sais. J'ai pas lu Proust. J'ai pas lu Platon au complet.
C'est ironique. Hein?
Qu'est-ce qui se passe?
Faut un voyage en Asie pour Proust. Hein?
Ah, c'est ça. Puis j'ai essayé tellement fort que je me suis garochée dans un autre pays pour aller essayer...
d'apprendre un peu plus sur la philosophie, puis d'approfondir mes connaissances en philosophie. Et donc, je me suis ramassée à Vienne, où je pensais que le cercle de Vienne, tu sais, je veux dire, Sigmund Freud, je veux dire, c'est la réflexion pure, là, tu sais, je m'en vais dans les Europes, je vais apprendre des choses. Puis pendant que j'étais là-bas, c'est là que j'avais plus de job, bon Dieu, pour la première fois depuis que j'avais 14 ans. Puis c'est là que je suis retombée dans mes vieux amours. Fait que j'ai recommencé à lire de la science-fiction. J'ai commencé pour la première fois à lire du fantasy. J'ai écouté pour la première fois Game of Thrones. J'ai commencé à retomber dans ces objets-là. Puis j'ai recommencé à jouer à des jeux vidéo aussi. Puis j'ai découvert aussi là-bas, à Vienne, que c'était possible d'étudier la culture populaire à l'université. J'avais un séminaire qui, en fait, était... ça s'appelait comme l'idéologie américaine dans les séries populaires. Et donc, on a juste passé la session au complet à regarder Breaking Bad puis Mad Men puis essayer de sortir quelque chose de l'idéologie américaine de ça en lisant Adorno. Puis, tu sais, c'était super académique, mais en même temps, on avait quelque chose comme quelque chose de populaire. Puis, j'ai découvert le jeu vidéo. Puis j'ai découvert qu'on avait le droit d'étudier le jeu vidéo, puis que c'était intéressant. Puis que le jeu vidéo, ben, tu peux... Tu sais, il n'y avait pas juste le faire ou jouer. Il y avait quelque chose au-dessus de ça. On pouvait y penser, on pouvait se demander qu'est-ce que le jeu vidéo représente. Pas nécessairement seulement du côté éthique, genre, est-ce que mon enfant va faire des mass shootings s'il joue à Call of Duty, mais qu'il y avait quelque chose de plus derrière ça. Puis quand je suis revenue à Montréal, j'ai découvert une mineure en études du jeu vidéo à l'Université de Montréal, puis je me suis dit, laissons faire la philosophie, on va aller apprendre un peu du jeu vidéo. Et c'est là que j'ai rencontré les merveilleux professeurs de l'Université de Montréal.
Fallait que tu baisses tes doigts.
Oui, ben, oui, mais en même temps, tu les gardes quand même toujours à portée de main, tu sais. Faut quand même que tu sois toujours prêt à comme... le relever juste un petit peu au bon moment quand le doyen passe, mettons. Mais...
on est à l'UDM encore.
On est à l'UDM. Je veux dire, on reste à l'Université de Montréal, mais il y a une ouverture, tu sais. Puis moi, j'ai commencé... Je suis arrivée dans le jeu vidéo, puis j'ai dit, OK, moi, j'aime la science-fiction, j'aime ça, les mondes parallèles, j'aime ça, penser les univers, puis ces trucs-là. Je me dis, je vais travailler sur la théorie des mondes possibles dans le jeu vidéo, mais je ferai pas de philo. Moi, je fais plus de philo, c'est terminé. Tu sais, c'est pas mon monde, c'est pas mes affaires. Puis là, ben, tu sais, plus ça va, plus je travaille, plus je me rends compte que, hey, penser l'ontologie des mondes virtuels, puis, tu sais, comment est-ce qu'on peut dégager une essence de cette virtualité-là par rapport à l'interactivité, puis la manière dont les gens interagissent avec les systèmes de jeu, c'est super intéressant. Puis je me rends compte que, en essayant de plus j'essaie de m'éloigner de la philo, plus j'y reviens en parlant d'un sujet qui est essentiellement un sujet qui appartient à 100% à la culture populaire, là. Fait que je me suis rendu compte que c'est indissociable jusqu'à un certain point.
Mais parce que le corpus primaire et le corpus théorique, c'est deux choses différentes. Tu peux étudier la philo en elle-même, mais tu peux aussi appliquer la philosophie à des objets, et ces objets-là peuvent être aussi variés que le Tim Horton et Kant et tout ce qui s'est produit et passé tous les jours.
Il y a aussi que la philo, à la base, ça peut parler de la vie.
Yep.
Mais c'est que on dirait que dans les études universitaires sur la philosophie, on a perdu ce contact justement avec la vie là, et par la pop, la philo revient justement à ce quotidien là, à notre vie, à la manière dont on aborde la fiction, à toutes ces choses-là, l'interactivité,
ben
les
oui,
jeux vidéo.
Oui, absolument. Puis tu sais, on en parle souvent dans les émissions sur Star Trek, dans le fait que, tu sais, Star Trek est une série de science-fiction qui est adorée par des milliers de fans de science-fiction. Mais à la base, tu sais, Star Trek est une espèce de manière d'explorer des enjeux philosophiques, des enjeux politiques aussi. Puis ça fait partie des raisons pour lesquelles j'aime et Star Trek me fascine. C'est justement cette idée-là que la philosophie appartient pas juste à une élite qui a lu Kant par cœur et qui enseigne dans des grandes universités UP avec les 6 petits doigts en l'air si possible. Ça appartient aussi au peuple et aux gens qui consomment des objets qui abordent des questionnements philosophiques comme le jeu vidéo le fait, comme à peu près toutes les émissions qu'on regarde le font plus ou moins bien, dépendant de comment ça fonctionne, et de nos conversations aussi dans la vie de tous les jours. Puis je pense que ce que j'ai envie de ramener dans le paysage populaire en tant que chercheur, c'est l'idée que la réflexion appartient pas juste aux gens qui vont à l'université. Penser, c'est pas le luxe des gens qui ont réussi à se rendre là, parce que se rendre à l'université, c'est difficile. Puis moi, je suis privilégiée parce que j'ai pu m'y rendre, puis je suis dans une famille aisée, on a été capable de se rendre là assez facilement, mais c'est pas le luxe des gens qui ont un bungalow à Laval de penser. Tu sais, ça appartient à tout le monde. Puis je pense que c'est un peu ça que j'aspire à ramener d'une manière très humble, en sachant honnêtement que je serais jamais capable de ramener la philosophie à tous et à toutes.
Mais je pense que c'est vrai que c'est une tension qui existe et qui doit exister chez tous les chercheurs pop entre ramener qu'est-ce que les gens connaissent dans leur quotidien à quelque chose qui peut être compréhensible pour eux, ramener du savoir qui est hors de leur quotidien dans leur quotidien, puis aussi comme moi je fais, penser leur pratique à eux, parce mm-hmm. qu'on peut pas, c'est pas juste nécessairement des consommateurs, et nous en tant qu'universitaires on peut penser mieux qu'eux qu'est-ce qu'ils consomment,
c'est ça.
Mais ça peut aussi être des personnes qui pensent leur consommation, donc des fans, et ça peut être aussi des créateurs eux-mêmes qui partagent à travers des îles, à travers mm-hmm. des forums, à travers des micros verts, à travers toute une panoplie de moyens, surtout avec les nouvelles inventions technologiques. C'est assez facile de devenir créateur et de diffuser à un nombre raisonnable de personnes, et un très grand nombre dans certains cas de personnes, mm-hmm. Sa création. Donc, c'est de penser tous ces niveaux-là, comment il y a des transferts qui se passent, et que c'est pas juste...
Mais les fans d'aujourd'hui, c'est les créateurs de demain, là.
Absolument.
Puis ça a été ça avec la génération Spielberg, puis c'est ça encore aujourd'hui. Et chaque génération construit une nouvelle génération de créateurs qui va faire à la fois du pop très quotidien, du mainstream, des mouvements pop militants, des mouvements, bon, à peu près tout, là.
Mais oui, puis
c'est important de réfléchir.
On parlait aussi de la création dans le jeu vidéo aussi. C'est quelque chose qui est quand même assez central d'être capable d'emmener les gens à, en fait, démocratiser l'objet vidéoludique, à rendre possible aux gens qui ont joué à des jeux vidéo depuis leur tendre enfance, de leur donner les moyens d'être capables de créer des jeux. Puis c'est pour ça qu'il y a des mouvements comme le mouvement des alt games, des jeux alternatifs, qui sont, en fait, des jeux qui sont en marge des jeux indépendants. Et de la grande industrie 3, Ubisoft et EA et Warner, pour n'en nommer que quelques-uns. Puis ça permet aussi aux gens qui sont marginalisés d'aller et d'explorer des plateformes de création. Puis avec ma collègue Pascale Thériault, qui est aussi co-organisatrice du groupe féministe vidéoludique, on travaille justement à regarder comment ces plateformes-là, qui sont accessibles à littéralement monsieur, madame, tout le monde qui a un ordinateur puis qui est capable de cliquer sur une souris, comment les gens peuvent s'en servir de cette plateforme-là pour se réapproprier aussi un objet qui, même en étant très mainstream comme le jeu vidéo, est quelque chose qui demande quand même un nombre d'habiletés assez précises. Tu sais, pour jouer au Xbox, il faut quand même que tu aies beaucoup de mobilité, que tu sois capable de gérer 17 boutons en même temps, puis c'est encore pire pour les créer. Fait qu'il y a toute cette idée-là aussi de voir comment on peut prendre des objets qui ont l'air populaires, mais que dans le fond, ils ne sont pas vraiment, puis d'essayer de les ramener pour donner aux gens le moyen de créer aussi.
Mais je pense aussi, c'est ce qui vient de plus en plus dans le milieu universitaire, dans les études pop, en tout cas, qu'est-ce qui est de plus en plus essentiel, c'est de penser en dehors de ces frontières-là. Tu sais, on imagine souvent les mondes de l'art. Cette théorie-là se base sur une division des mondes avec quelques passerelles entre eux. Donc, il y a certaines personnes qui appartiennent à l'institution, certaines personnes qui appartiennent au monde de l'autopublication, certaines personnes qui vont faire des zines ou qui vont vouloir être dans la contre-culture, donc s'opposer à l'institution. Alors qu'aujourd'hui, on voit, ou en tout cas apparaît de plus en plus dans les études de la pop, le fait qu'on peut pas penser en division, mais en croisement. Quelqu'un peut à la fois faire partie de l'institution, puis là encore, on en revient au sujet de Mégane, à la fois être universitaire et être fan, mais on peut aussi être à la fois éditeur et autopublier un livre, faire des zines. Rien n'empêche qu'on soit à la fois marginalisé, mais aussi qu'on appartienne à un certain moment à l'institution, parce qu'on n'est pas qu'une personne marginalisée, on peut aussi être une personne institutionnalisée à un certain moment, et c'est pas nécessairement négatif ou contradictoire ou conflictuel, en fait. Mm-hmm. C'est que mais si on se met à étudier la pop et à creuser qu'est-ce que ça fait dans la vie des gens et comment qu'on peut appartenir à certaines sphères, culturelle, ben on se rend compte qu'il y a des moments où on appartient à plusieurs sphères culturelles en même temps. Puis mm-hmm. il y a des croisements. C'est là que ça devient enrichissant, c'est de dire justement quand je faisais la blague, mais est-ce qu'on a encore on a des études comparatives avec Proust? Mais c'est là qu'il faut qu'on arrive à dire que à mettre quelque chose pas d'un pied d'égalité, pas dire que c'est une équivalence, mais de dire qu'on peut l'étudier.
On peut les penser ensemble.
Ensemble, ouais, ouais. Dans un ensemble.
Et pas nécessairement en comparaison, tu sais. C'est pas nécessairement de partir par la pop pour arriver au vrai art, non, ou à la vraie pensée, mais mm-hmm. pas du tout. C'est justement que ces deux mondes-là travaillent ensemble puis qu'ils sont pas mutuellement exclusifs. Puis on n'est pas obligé de faire partie d'un ou de l'autre.
Puis maintenant, il y a des pratiques c'est actuel qui nous permettent plus de le penser, justement quelqu'un qui va gagner des prix dans l'institution littéraire, puis à côté de cette pratique-là très institutionnalisée, va continuer à faire des zines, à mm-hmm. faire des autopublications, à produire des fanfictions, à produire des choses. Donc cette personne-là, dans sa propre pratique, nous oblige à sortir de nos frontières, à sortir de mm-hmm. des divisions qu'on posait a priori, qui ont peut-être appartenu à des mondes plus hiérarchisés que le nôtre, ou du moins où les capacités de réflexion et de production étaient données à certains mm-hmm. et à certaines. Plus à certains. Donc, je pense que c'est là aussi l'important, c'est de penser la culture pop. L'étude de la culture pop nous oblige à penser des transferts, que ce soit envers l'université et la philosophie et les jeux vidéo, que envers comment les gens s'aménagent dans ces modalités de création-là ou de même lecture.
Bon. Mais sur ces mots comme porteur d'espoir et donc j'ai encouragé tout le monde à continuer à traverser les frontières des sphères culturelles.
Puis vous avez le droit d'aimer au niveau que vous voulez.
À tous les niveaux.
Et d'oublier. Moi, j'oublie tout.
L'amour, ça compte toujours.
Mais oublier, c'est important aussi.
Ouais, j'ai pas le temps de me rappeler de tout.
Moi, j'aime ça oublier parce que je peux les écouter deux fois puis être vraiment surprise.
Ben oui!
Voilà. Merci. Ben, merci. Merci à tous les poppers qui étaient là avec moi et nous aujourd'hui. Donc, merci Steph, merci Roxane, merci Sandrine qui est partie tout à l'heure, mais on l'aime beaucoup. Et merci Catherine de l'autre côté de l'océan qui dort en ce moment, probablement. Oui, probablement.
Qui est à Copenhague en ce moment, en
passant. Qui est à Copenhague. Allô Catherine, on t'aime.
Mais ça n'est pas clair, elle se couche minuit moins deux.
Bon, ben, elle doit être fatiguée de sa journée.
Ouais. Mais on vous aime aussi, chers auditrices et auditeurs.
Mais oui, merci beaucoup et on s'en va en musique. Et à la semaine prochaine pour un autre épisode de Pop en Stock.